fois précédente, on a appréhendé les 12 observances. Je vous rappelle que, en fait, ces 12 observances sont liées à l'être. En d'autres termes, au soi, et par rapport à la personnalité, le non-soi. Nous devons retenir que si nous pratiquons ces 12 observances, eh bien, nous ne générons pas de dissonance et par conséquent de karma.
Quand on parle de karma, on parle de karma positif et négatif.
Oui, mais en fait, la réalité, c'est l'absence de karma. Alors, quand tu parles de bon karma, à l'entendement, effectivement, on ne fait pas de karma, mais il faut faire attention à ce qui est le bon mauvais karma. Et le bon mauvais karma, je recouvre en cela tout ce qui relève des gens dits bien pensants, qui sont persuadés qu'ils font bien, alors qu'en fait, ils ignorent qu'ils atteignent la plupart du temps la liberté d'autrui, et par conséquent, sont dominants et font du karma.
C'est de la manipulation.
C'est de la manipulation.
Donc c'est de l'application, disons, de l'observance, ce serait équivalent à l'innocuité, quoi, en fait.
Voilà, l'innocuité, c'est ne jamais nuire à autrui, ni en pensée, ni en parole, ni en acte. Alors, aujourd'hui, on appréhende quelque chose qui est éparpillé, qui est éclaté dans tous les textes des deux auteurs. Il s'avère cependant que le sujet, s'il est appréhendé, intégré, assumé, il permet à l'être d'être pleinement dans le cinquième règne. Dans la traversée du règne humain, dans la moitié de cette traversée, à savoir le quatrième règne, la vie, au stade humain, apprend à acquérir l'individualité de conscience, la soi-conscience. Cette faculté est recouverte par l'appellation l'intellect. La vie, au stade humain, appréhende le mental, lequel était embryonnaire pour la vie animale sortant du règne animal. Dans la première partie du règne humain, le quatrième règne, ce qui va être appréhendé, c'est les quatre sous-plans du plan mental. Cela s'appelle communément le mental concret, que nous devons distinguer à trois niveaux, en vous précisant que ce globe mental est le plus vaste de l'ensemble des globes, des plans, et qu'il faut distinguer en fait trois parties. Vous avez donc le mental concret, l'âme et le mental supérieur ou manas. Quelle est la faculté du mental concret ? Il donne accès à l'individualité de conscience. Le mental, c'est l'aspect fils, et par conséquent, il résulte de l'union des deux pôles de la vie, esprit-matière. Vous noterez en passant que l'être humain du quatrième règne a affaire avec 18 types d'énergie, 7 du plan physique, 7 du plan astral, 4 du plan mental. C'est son champ d'investigation du monde. Nous sommes, pour l'être humain, dans les vies qui constituent ces mondes de manifestation. Je reprends l'explication fondamentale. Toute vie qui se manifeste se crée un monde de manifestation composé de différentes formes. Pour ce qui est l'être humain, il y aura donc une forme physique, une forme émotionnelle, une forme mentale. C'est-à-dire des mondes contenant des vies mineures dont il a la charge. Il faut bien comprendre que toute manifestation est un monde composite. C'est une approche capitale pour bien situer les vies en évolution. En d'autres termes, nos corps physiques, notre corps émotionnel, notre corps mental concret, c'est fait de vie mineure que nous avons attirée à travers notre évolution humaine à nous comme étant représentatifs de notre évolution. Il faut faire la distinction entre ce qu'on appelle en termes occultes l'on-soi, qui recouvre toutes ces vies mineures que nous accueillons par nos faiblesses ou par notre maîtrise, et ces vies mineures sont nos étudiants. Vous comprenez bien que cette approche permet à l'être humain de faire la distinction entre ce qu'il est réellement et ce qu'il a en charge. Tant qu'il est aveuglé par ses vies mineures, il s'identifie à ses vies mineures, et par conséquent, son comportement va être de dire « c'est mon caractère, c'est ma nature, je ne peux pas la changer ». Ben voyons.
Ces vies mineures, elles sont uniques, ou elles aussi, du fait qu'elles sont manifestées, en fait, hein, si ça se manifeste toujours avec différents plans, sous plans et compagnie,
Ces vies en question, qui sont jeunes, puisque ce sont des vies microcosmiques, ces vies, en fait, progressent elles-mêmes, au sens où, vibratoirement, quand elles sont assez lourdes, elles sont physiques, plus élevées, elles sont astrales, plus élevées, elles sont mentales, c'est-à-dire que ces vies mineures, en fait, ont aussi leur échelle d'évolution. Obligatoirement analogique. Alors, je vous rappelle que ces vies mineures se manifestent par le désir. Appétit physique, pulsion et passion émotionnelle et forme pensée mentale. Il faut savoir, premièrement, que dans ce deuxième système solaire, il n'y a plus en matière de vie lunaire, c'est-à-dire lunaire voulant dire sans soi conscience. Elles ont une conscience, mais ce n'est pas une individualité de conscience. Eh bien, ces vies mineures lunaires sont des vies d'occasion. Dans le premier système solaire, les vagues de vie émises par les logoi étaient originelles, pures. Et puis, dans ce deuxième système solaire, eh bien, il n'y a pas une nouvelle cargaison, on va dire, de vie nouvelle. Ce sont toujours les vies résultant du premier système solaire. Oui, en fait, les vies minérales sont des vies qui ont échoué dans le premier système solaire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas réussi à sortir de leur propre cycle d'évolution. Je reprends donc, les vies lunaires se manifestent par le désir. Et, bien évidemment, il y a un rapport dans toute la partie du quatrième règne où les vies mineures, lunaires, dominent, asservissent, emprisonnent la vie centrale. Parce qu'il fait la volonté de ses désirs. Je ferai la parenthèse en vous rappelant que le précédent instructeur de l'humanité avant Maitreya, c'était donc Siddhartha Gautama Buddha, et le message qu'il délivre à l'humanité, c'est « cesser le désir qui est la cause de la souffrance ». Pendant toute la traversée du quatrième règne, l'homme va édifier son corps physique, et ensuite il va édifier son corps émotionnel, puis il édifiera son corps mental concret. Alors cela vous donne à terme le triangle de la personnalité, la vie humaine, dont la forme propre de manifestation est l'âme. L'âme, c'est le rayon que projette la racine de vie humaine, au stade humain, dans les robes de la matière. Et elle se crée une forme permanente qu'on appelle l'âme, et qui est une unité de conscience. Pendant toute la traversée du quatrième règne, l'âme est dans ce monde prisonnière des vies mineures. Quand les trois aspects sont développés, il va falloir synthétiser ces trois aspects qu'on appelle manifestation de la personnalité. Ça veut dire que la personnalité doit être en prise directe de fonctionnement avec toutes ces vies mineures. Alors vous voyez bien le panel en fait de myriades de vies mineures qui vont permettre la communication, l'expression, les échanges au niveau des relations humaines. Mais le processus, c'est que dans ce monde tel qu'il est, tel qu'il fut, depuis que l'homme a été jeté dans les ténèbres, eh bien, le processus d'individualité de conscience a généré la séparativité. Et l'aboutissement de la personnalité réalisée, c'est moi, je, centre du monde. Mais cela est en fait le champ de conscience composite de toutes les vies mineures. Ce qui vient à définir que notre mental concret humain est essentiellement le mental composite de toutes nos vies mineures. Ce n'est pas notre mental dans notre réalité. Voyez-vous, on aborde en fait des regards, on va dire, propres, particuliers, sur ce qui est la réalité et non pas l'illusion des choses. Alors vous noterez d'ailleurs que l'intellect est essentiellement mémoire. Et vous notez qu'au niveau de l'éducation des enfants, on leur fait surtout développer actuellement la fonction mémoire. Et vous voyez que si un étudiant est brillant dans sa capacité mémoire, ça ne veut pas dire pour autant qu'il sera compétent dans tel ou tel domaine d'activité. Alors je me permets d'insister sur le fait de bien comprendre que, 1. La vie au stade humain se manifeste à bord de micro-mondes que sont ses corps. Deuxièmement, que l'être humain, l'âme, est emprisonné par les vies qui sont ses étudiantes, les vies mineures qui sont ses étudiantes, et que notre mental concret, l'intellect, est le mental composite de toutes les vies mineures de nos corps. Alors, va arriver à un moment donné, dans la traversée du quatrième règne, la phase de virage. C'est-à-dire que l'être, le soi, l'âme, va constater qu'elle aura symboliquement parcouru, symboliquement je parle, 700 vies pour réaliser sa personnalité. Et qu'elle va effectuer un virage constatant, premièrement, que ses véhicules de manifestation sont maintenant en ordre suffisamment satisfaisant pour fonctionner. Donc l'être va appréhender un processus d'éveil de la personnalité pour effectuer de la part de sa manifestation triple une réponse d'éveil. Alors vous pouvez bien évidemment superposer à ça la parabole de l'enfant prodigue, à savoir que dans la traversée du quatrième règne, l'être aura été un électron libre et par conséquent, ce n'est pas parce qu'il ignore les lois qu'elles ne s'appliquent pas. Ce qui veut dire qu'un jour, il va s'asseoir au bord du chemin en tant qu'enfant prodigue, et puis il va se dire, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que je sois dans cette situation ? Là, il rentre en fait, si vous voulez, dans le processus de ressentir progressivement une autre réalité en lui. Par phase progressive de vie en vie, il va répondre à cet être de lumière qui est en lui et qui est lui.
C'est à cet instant que la Kundalini commence à réagir ?
Non, la Kundalini, elle se déclenche dans la phase de père, au père. Là, si tu veux, c'est l'émergence du fils. C'est là où le plexus solaire se retourne. Effectivement, puisque en fait, si tu veux, le triangle de la personnalité a fonctionné, le triangle lié à l'être commence à rayonner, et le plexus solaire, pour parler technique, la chambre de compensation Le plexus se retourne et s'ouvre progressivement aux réceptions d'énergie supérieure. Ce n'est pas le sujet du jour, parce que ça relève, si vous voulez, de cours plus avancés, mais un jour, vous aurez tout le processus, en fait, d'épanouissement des centres. Derrière tout ce qu'on évoque, il y a une réalité technique, scientifique, qui fonctionne comme une horloge. Alors, l'enfant prodigue va effectuer son virage, et bien évidemment, cela va durer pour lui 70 vies. Mais c'est symbolique, hein. C'est pas des vies comptables, c'est des paliers d'épanouissement. Dans ce processus de réalisation, en fait, il effectue un interrègne entre le quatrième et le cinquième. C'est le temps de l'aspiration, de l'aspirant, hein, où il est aspiré par son être intérieur, qu'il est, et qui, au fur et à mesure, prend les commandes. Dans ce processus, l'enfant prodigue va réaliser qu'il y a des lois qu'il a ignorées, qu'il a méconnues, qui sont les lois de la vie. Et éclairé par l'être qu'il est, on est dans un relationnel, si vous voulez, je reprends d'autres termes, c'est pour que, n'est-ce pas, de Caïn et Abel. Hein, je fais une parenthèse pour que ce soit bien compris. Dans les temps anciens, ils employaient en fait des paraboles, parce que ça permettait à l'époque d'être mieux compris. Quand il est dit qu'un a tué Abel, c'est pas physiquement. C'est que la personnalité a fermé les portes à l'être. Donc symboliquement, il l'a tué. Dans cette traversée de l'interrègne, c'est une période difficile, déstabilisante, où il y aura la première prise de conscience, c'est qu'il y a des lois, et au fur et à mesure, il va intégrer sur lui-même ses lois. Il va comprendre qu'il doit gérer à l'équilibre son corps physique, autrement il en a les désagréments. Si je cède à mes lutins de la gourmandise et compagnie, de l'alcoolisme, de l'alcool et compagnie, vous voyez très bien. Bon. Donc, il a une phase longue d'aspiration, c'est-à-dire d'atteindre à la première prise de conscience liée au corps physique, appelée initiation. La première initiation, c'est pour l'être, pour Caïn, de ne plus dépendre de ses appétits physiques. Ça peut mettre plusieurs vies. Hein. Quand il a intégré à ses dépens de cette prise de conscience, son être a pris impression sur le corps physique et va appréhender le corps émotionnel. Il va donc s'orienter vers la non-dépendance du corps émotionnel. Passion et pulsion émotionnelle. Dans ce processus d'orchestration de la maîtrise du non-soi, à chaque phase de prise de conscience supérieure, c'était initiation, il y a un cran de plus des phases précédentes. Qui veut dire que quand on ne dépend plus émotionnellement, eh bien, l'être enclenche une nouvelle exigence sur la gestion du corps physique. Non, non. Il va le comprendre de la façon suivante. En fait, tout ce schéma pour que l'être soit aux commandes, ça va être de la non-dépendance à la maîtrise. Alors, la maîtrise, c'est quoi? C'est le détachement du désir. Je vais prendre un exemple pour que tout de suite vous voyez bien les nuances. Vous avez quelqu'un qui est dans la dépendance de l'alcool. S'il laisse aller, ben, il va avoir les inconvénients de santé liés à l'alcool. Ce qui veut dire qu'il va peut-être mettre 3-4 vies à être gêné par cette faiblesse. Bon, et puis dans une vie, il dit, ah bon, ouais, hein, il faut que je me détache de ça. Donc il va entamer un processus, on va dire, curatif. Mais s'il apprend à se protéger de la dépendance, il n'en reste pas moins qu'il va avoir une phase délicate, difficile, de combattre. Même chose pour, par exemple, le tabac. C'est-à-dire que, j'en prends plus, mais dur. Hein, bon. Et puis, puis en fait, la troisième phase, ce sera le détachement. C'est-à-dire que à la deuxième phase, il passe devant la table, il y a le jus de fruits, il y a les eaux, et puis il y a l'alcool. Ah ouais, mais le jus de fruits, les eaux ne l'attirent pas pour autant, mais l'alcool, donc il est obligé de résister. Et dans sa troisième phase, eh ben, il sera détaché, c'est-à-dire que ben, il passe et puis voit les bouteilles, je dirais, avec le même... voilà. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'il va se faire ceinture, ça veut dire qu'il sera à l'équilibre des choses. Vous comprenez? Donc il aura la maîtrise. Hein? Donc il y a la dépendance, le détachement et ensuite la maîtrise. Alors, dans cette avancée, il va rentrer dans une phase qu'on appelle le disciple. Un disciple, c'est celui qui se discipline aux lois de la vie. Et il va donc être un disciple en probation. Pourquoi ? Ben parce que, si vous voulez, là, il touche le cœur des faiblesses, c'est-à-dire le monde des désirs. Et ce sont des vies difficiles parce que c'est un combat de libération. Quand il est observé comme ayant une certaine constance à ne pas dépendre, il est accepté dans la hiérarchie des âmes, des êtres, ce qui veut dire que sur le plan terrestre, il est entré dans le cinquième règne. Pour vous situer au niveau de l'humanité, aujourd'hui, un cinquième de l'humanité est entré dans le cinquième règne. Deux autres cinquièmes sont dans les deux phases préalables, c'est-à-dire première initiation jusqu'à la deuxième initiation. Hein, vous voyez, ça fait quand même, comme on dit, une situation théoriquement favorable, puisqu'en fait, l'être humain est dans sa réalité cet être de lumière qui est en lui. Quand il va appréhender, mais on va le voir quand on appréhende le cinquième règne, à ce moment-là, si vous voulez, il va, dans la phase suivante, arriver à la maîtrise de la personnalité et par conséquent du non-soi. Quand nous étudierons l'âme en tant que lotus égoïque, nous verrons comment les épanouissements de circuits énergétiques se réalisent. Dans l'éveil, dans l'ouverture, en fait, de l'âme du lotus égoïque. Il faut savoir que l'être du quatrième règne ignore qu'il gère en permanence des énergies, des forces, et que toutes ces forces sont encore pollution dans ces champs énergétiques, et que communément, on appelle ces forces les vices en opposition aux vertus. Ce qu'il faut savoir dans le quatrième règne, c'est que vous avez encore des forces brutales, sauvages, que l'humanité, dans son ensemble, n'a pas encore appréhendées. Je veux dire par là que ce sont des cavales qui ont formé et forment un tel peloton qu'il y en a encore des sauvages. Si vous voulez un exemple précis, la colère fait partie de ces forces aveugles. À moins de faire une colère intentionnelle, hein, mais là, comme on dit, c'est de l'habileté diplomatique, autrement, quand elles ne sont absolument pas gérées et qu'on est emporté avec, eh bien, vous avez là des forces brutales, brutes de décoffrage, qui, en fait, continuent à courir l'humanité. Et comme elles ne sont pas maîtrisées, elles restent sauvages. Ah ben ça donne en fait des comportements humains qui relèvent de la méchanceté, de la haine. Voilà, c'est des forces brutales. Alors après, bien, il n'y a pas qu'un Hitler. Hein. Vous savez, ça court. Hein.
Moi je pensais au Hitler dans le sens de concentration de ses forces que l'humanité aurait à affronter.
Oui, mais ce que l'on évoque là, on va dire, c'est une vue générale. Hein, en vous rappelant quand même, pour répondre à votre remarque, que l'amour existe dans l'univers, au même titre que la lumière et les ténèbres, au même titre que le bien et le mal, c'est indispensable, ce qui veut dire qu'à l'opposé de l'amour, il y a de façon éternelle la haine. Oui, oui, c'est des vies que les hommes n'ont pas actuellement maîtrisées. À ça, je te suis là-dessus. Ah, mais avant l'orgueil, il y a la séparativité. On est bien d'accord, c'est la sœur jumelle. Hein. Mais, oui, mais...
C'est l'orgueil qui fait la séparativité.
Oui, dès la séparativité. On est bien d'accord, mais s'il n'y a pas de séparativité, il n'y aura pas d'orgueil. S'il n'y a pas de séparativité, il n'y aura pas d'orgueil. Parce que, comme je l'ai dû vous le dire la dernière fois, mais pour que ça vous situe et ça, je dirais, modifie des champs de compréhension, si vous avez une grande vie qui est passée au-delà du règne humain, n'est-ce pas, et qui a atteint des horizons plus que lointains, eh bien, s'il vous contactait, il vous dirait toujours « mon enfant, mon frère ». Est-ce que vous voyez la nuance? Parce qu'il n'y a qu'une seule vie. Et c'est là où est la clé de la chose, c'est que s'il n'y a qu'une seule vie à travers tous les univers, il n'y a pas de séparativité.
La peur naît de la séparativité.
Oui. Mais oui.
Oui, c'est ça.
Oui.
Parce que la peur est aussi l'antithèse de l'amour.
C'est comme un prisme qui empêche qui sépare la lumière alors que c'est une réalité.
Ouais,
et ensuite, chaque forme, chaque lumière, c'est une forme qui se prend pour quelque chose d'unique, etc.
Alors là, vous avez sous-tendu à ce qu'on évoque, vous avez ce qu'il est communément appelé, entre guillemets, qui vient entre guillemets, la faute du père. C'est-à-dire d'avoir ouvert la boîte de Pandore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir voulu, attention, hein, beaucoup de prudence dans la compréhension. Parce que derrière cette faute apparente, il y a peut-être une stratégie divine. Mais en lecture, ça a été de vouloir faire avancer trop vite par amour des vies mineures. Quelle est la faute du Bouddha? C'est quand il s'est éveillé, il s'est instruit des enseignements brahmaniques. Et puis, bien évidemment, ce réveil a entraîné chez lui une prise de hauteur, si vous voulez, de réalisation, qui fait qu'il a fait remarquer au brahman qu'en fait, il n'avait pas à rétendre la connaissance qui appartenait à toute l'humanité. Et qu'en faisant cela, ils étaient dans l'erreur. Il a méjugé, en fait, le résultat qu'il escomptait. C'est-à-dire que les brahmanes ont dit, ah ben, dans ces conditions, ah ben, on verrouille encore plus. Du genre, qu'est-ce que c'est que ce jeune qui se mêle de tout? Donc, le Bouddha, si vous voulez, dans sa grande dimension d'amour-sagesse, s'est aperçu qu'il avait eu un effet inverse à ce qu'il attendait. Et bien, par amour, il a dit, je ne quitterai pas ce monde tant que je n'aurai pas ramené ces êtres dans le bon chemin qu'ils doivent prendre. Vous voyez, c'est pour vous montrer à la fois que l'excès d'amour peut être aussi... Non, on ne peut pas dire que c'est de l'orgueil, là, non.
C'est un objectif, quoi.
Non, c'est le fait de méconnaître le rythme du temps.
Dans l'enseignement, ça me fait penser à l'époque, quand les gens ont voulu faire des maths modernes, etc., à bas niveau, alors que les enfants, ils ont besoin de quelque chose de concret, flagrant. Ça a complètement fait la dynamique. Quand on a changé les méthodes d'apprentissage de la lecture, on a voulu faire des trucs globales. Le global, ça marche très bien au niveau de ce qu'on entend quand on parle, mais une fois qu'on pour parler, pour écrire et tout ça, il faut structurer. Hein, et voilà, on a vu, c'est une analogie un peu pareille. On veut faire trop bien parce que c'est des gens de niveau, mais qui n'est pas adapté à l'état global.
On a toujours tort d'avoir
c'est un truc de l'éducation de base.
Quoi. Oui, mais je vais vous prendre une remarque, un exemple complètement déplacé, mais qui, je pense, colle bien à ça. En fait, nous devons être en la matière des cuisiniers gastronomes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire venir un plat plus vite que le feu peut donner le résultat. Autrement, on crame. Bon. Et bien, il y a un processus analogue, si vous voulez, dans l'éveil.
Juste une question, Bernard. Est-ce que tu dirais que Gautama est revenu à l'état de Bodhisattva?
Non, là, tu touches le mystère du Bouddha. Alors, je peux l'expliquer, mais un, il faut un petit moment pour comprendre, et puis deux, en l'état, peut-être que certains d'entre vous n'arriveront pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que à un moment d'évolution, la racine de vie développe ses corps subtils. Donc, il va y avoir édification du corps atmique, du corps christique, bouddhique, du corps manasique, de l'âme. À un moment, chacun de ces entités peut se créer une manifestation terrestre. Et tout en étant la même racine de vie. Ça sera plus facile à comprendre dès l'instant où on se dit, le Père, il est éclaté en des myriades d'êtres humains. Il n'y a qu'une seule vie. Hein ? Ce qui veut dire qu'en fait, chacune de ces manifestations peut être indépendante tout étant unitaire. Si bien qu'un même être peut être 5 fois sur la Terre.
Dans la Kabbale, c'est le processus, de raisonnement des deux témoins.
A priori, tu sais, si la réalité est réalité, colle. Donc en fait, le Bouddha comme tel est passé au-delà du plan physique comme cosmique, mais il a laissé des présences pour assumer ce qu'il avait conçu, qui sont elles-mêmes des entités propres. Le Père, le Logos planétaire, il a sa trinité, ses 3 aspects, Père, Fils, Mère, occupés chacun par une individualité, un des Bouddhas d'activité. Tu comprends ? C'est-à-dire qu'en fait, dès l'instant où tu comprends qu'il n'y a qu'une seule vie, après, ça n'est jamais que d'être à niveau de tel ou tel niveau. Mais il ne faut pas voir ça en tant que forme. Mais quand le Christ te dit « Celui qui me voit, voit le Père », qu'est-ce qu'il dit aux êtres humains ? Pratiquez de justes relations. Soyez canaux de l'énergie que j'ai à rayonner sur l'humanité. À ce moment-là, si vous êtes amour, je suis en vous et vous êtes en moi. Donc, tu ne t'en rends pas forcément compte, mais quand tu pratiques l'énergie christique, le champ de conscience relève du Christ. C'est l'individualité de conscience qui, dans notre monde, a malheureusement dévié en séparativité. Et comme la séparativité, c'est issu de toutes nos vies mineures qui se prennent d'orgueil, elles leurrent, en fait, l'être central. Parce que, elles, qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ont peur de la mort. Pourquoi elles se déchaînent ? C'est parce qu'elles ne veulent pas mourir. Attends, quand tu as une maison qui est occupée par les lutins de l'alcool, les lutins vont dire, attends, tu nous aimais tellement, là, on était tellement bien chez toi, là, et tu veux nous dégager ? Donc il y a un combat.
Actuellement, par rapport à notre race, c'est le petit savane et puis assumé en tant que rôle par l'être de Gautama Bouddha.
Ah non, c'est une prière.
Il faut faire attention, parce qu'il y a une nuance entre la ligne d'expression de Siddhartha et la ligne d'expression de Maitreya. Siddhartha était essentiellement sagesse, une combinaison entre l'intelligence et l'amour, alors que Maitreya est une combinaison entre l'amour et la volonté.